Bonjour à tous. D'abord, merci d'être participé à cette fête et de lutte ouvrière à Strasbourg. Voilà, comme l'a dit Louise, je vais faire une petite introduction et puis après on passera au débat. Je vais parler essentiellement de la situation des travailleurs aujourd'hui en France, mais on va pas, enfin, je ne vais pas m'arrêter qu'aux problèmes nationaux, évidemment. Mais je vais commencer évidemment par parler de ce qui fait un peu l'actualité depuis maintenant plusieurs jours, c'est-à-dire l'énorme attaque, l'énorme série d'attaques du gouvernement Barnier sur l'ensemble du monde du travail, sur l'ensemble de la classe ouvrière, à travers le budget, ce fameux budget qui fait couler beaucoup d'encre, qui fait parler énormément les experts économiques, les politiciens, les journalistes de tous bords. Et là, on a une avalanche, on a vraiment, ils y vont au bulldozer, c'est qu'il faut rembourser cette dette. Voilà. C'est nécessaire, etc. Cette dette, elle a explosé ces dernières années. Et avant de parler de qui rembourse, il faut quand même qu'on se pose la question qui c'est qui a bénéficié de ces milliards, de centaines de milliards d'argent public qui ont creusé cette dette, qui ont creusé le budget public. Nous, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas les travailleurs qui en ont bénéficié, c'est cette grande bourgeoisie, c'est ces grands capitalistes du CAC 40, entre autres, mais c'est eux qui se sont goinfrés, qui ont bénéficié dans une écrasante majorité de ces centaines de milliards. Je vais vous dire quelques chiffres, donc je les ai notés parce que j'ai pas pu les retenir, mais cette dette, elle a augmenté de 1 000 milliards depuis 2017. 1 000 milliards, c'est énorme, c'est monstrueux. Et dans le même temps, les 500 familles les plus riches de France, elles ont vu leur fortune, alors c'est une estimation, mais... elles ont vu leur fortune passer de 450 milliards à 1200 milliards d'euros. Donc si vous vous dites qu'il y a des vases communicants entre la dette qui s'est creusée et la fortune de cette bourgeoisie qui a augmenté, bah, vous êtes dans le bon. Vous avez raison. Mais on a aujourd'hui un matraquage au niveau médiatique sur ce qu'ils appellent le matraquage fiscal. Et quand vous écoutez les journalistes, bah, vous avez le gouvernement Barnier qui, soi-disant, honore cette promesse de faire payer les riches ou de mettre à contribution les ultra-riches et les plus grandes entreprises de ce pays. Alors, on va parler de quelques chiffres quand même, pour qu'on savoir de quoi on parle. Pour le gouvernement Barnier, il s'est engagé à faire payer un certain nombre d'ultra-riches. C'est qui ? C'est ceux dont le ménage, donc le couple, a comme revenu 500 000 euros par an, c'est-à-dire 41 000 euros par mois. C'est pour donner une ordre de grandeur. Nous, on fonctionne en mois, eux, ils fonctionnent en année. 41 000 euros de revenus par mois, vous êtes considérés comme, donc, faire partie de la catégorie des ultra-riches qui va être un peu taxé. De combien, on verra réellement au final. Mais si vous avez un enfant à charge, vous êtes plus dans la catégorie. Parce que c'est évident que quand vous avez 41 000 euros qui rentrent tous les mois, dès que vous avez un gamin, bah, voilà, vous êtes plus considéré comme un ultra-riche qui doit être surtaxé. Les gamins de riches, ça mange énormément, ça a beaucoup de frais. Voilà, c'est comme ça, ils sont un peu spéciaux, ces gamins, mais ça marche comme ça. Plus sérieusement, c'est quand même de l'ordre du symbole. Ils sont même pas égratignés, les riches. Et les entreprises, les fameuses 300 entreprises qui vont devoir contribuer, c'est provisoirement et d'une manière exceptionnelle. Tout ce qui concerne les riches, ces fameuses ultra-riches, nous on les appelle les grands bourgeois, cette grande bourgeoisie, c'est d'abord très limité, exceptionnel et provisoire. Quand il s'agit de nous taxer à nous, les travailleurs, les chômeurs ou les retraités, c'est du pérenne. Et vous allez voir que c'est du pérenne, c'est-à-dire ce qu'on paye, on le paiera toujours. Alors, juste par rapport au... Et simplement le fait qu'il ne soit même pas égratigné, que ça soit de l'ordre du symbole, quand vous écoutez un peu les BFM, LCI et compagnie, quand vous avez leurs représentants, ces grands bourgeois, ça pleure, ça chiale à tout bout de champ. C'est qu'on nous matraque, on nous fait les poches, et on n'a jamais été autant taxé, etc. Et on, comment on va faire pour s'en sortir? C'est pas une solution. Bon, ils pleurent la bouche pleine, avant même d'avoir mal, et même en ayant conscience qu'ils vont même pas avoir mal. Tellement leur richesse, elle a leur fortune, leur patrimoine a explosé ces dernières années. Alors, ils pleurent parce qu'ils sont conscients de défendre des intérêts, leurs intérêts. Et donc, ils gueulent, ils revendiquent que c'est pas normal, etc., même s'ils savent qu'en fin de compte, ils vont devoir donner une petite piécette, parce que politiquement, vaut mieux donner une petite piécette que faire monter la colère. Quand eux, ils parlent du matraquage fiscal, il faut savoir de quoi on parle. Alors, je vais donner quelques chiffres. La CSG, d'abord, l'impôt le plus injuste en France, le plus injuste, c'est parce que c'est la TVA. Et c'est l'impôt le plus juteux. C'est celui qui rapporte le plus dans les caisses de l'État. Ça rapporte aux environs 100 milliards par an. C'est cette fameuse taxe que l'on paye à chaque fois qu'on achète quelque chose. Et c'est l'impôt le plus injuste parce que, qu'on soit milliardaire, millionnaire, payé au SMIC, ou à 2000 euros par mois, ou chômeur, ou retraité, quand on achète sa baguette de pain, on paye 5,5% de TVA, quels que soient ses revenus. Et c'est là où c'est le plus injuste. C'est-à-dire qu'en gros, c'est nous on est les plus taxés. Ça, c'est pour la TVA. Après, il y a la CSG. J'ai pris cet exemple, la CSG, parce qu'elle est quand même révélateur. La CSG, ça sert à, d'abord, nous, on est ponctionnés sur notre fiche de paye, on n'a pas le choix. On ne peut pas magouiller, on ne peut pas voler, on ne peut pas s'évader de cette taxe. La CSG, ça a pour but de financer, entre autres, les hôpitaux, les médicaments, la médecine générale, etc. Au global, ça rapporte 154 milliards dans les caisses de l'État. Sur ces 54 milliards, à la louche, nous, les travailleurs, quand je dis travailleurs, c'est tous ceux qui payent la CSG, travailleurs, chômeurs, retraités, on paye à hauteur de 130 milliards sur les 154 milliards. Et le capital, la CSG, il est taxé à hauteur de 24 milliards, le reste. Vous voyez que quand les riches, sur les plateaux de télé, ils parlent de matraquage fiscal, En ce qui les concerne, c'est du baratin, c'est du mensonge, c'est faux. Et même qu'ils seraient taxés beaucoup plus que ça, ils savent pertinemment que leur argent, ils le récupèrent de toute façon autrement. Ils le récupèrent sous forme d'aide, etc. Alors, dans l'attaque du budget de Barnier, il y a les attaques qui nous concernent, nous, directement. Qu'on soit travailleurs, chômeurs, travailleurs du privé ou du public, ou retraités. Sur les retraités, là, vraiment, c'est quelque chose de scandaleux. C'est cette revalorisation des pensions qui va être reportée au moins, je dis au moins parce que c'est pas sûr, au moins jusqu'au 1er juillet. Et quand on voit le niveau des pensions, c'est vraiment une attaque, mais énorme, sur le pouvoir d'achat de la catégorie... Je vais pas dire la plus pauvre, mais celle qui peine le plus. Et comme par hasard, vous avez vu peut-être passer cette étude, je ne me souviens même plus de quelle étude il s'agissait, mais soi-disant que les retraités français étaient les privilégiés, étaient pratiquement les mieux payés, entre guillemets, d'Europe. Comme par hasard. Comme par hasard. Et comme par hasard, quand Darmanin il attaque les 35 heures dans le privé, bah oui, les travailleurs en France sont ceux qui travaillent le moins. Alors, c'est quand même extraordinaire, c'est qu'on est les travailleurs qui travaillent le moins d'Europe, mais quand on passe dans la case retraités, on est les mieux. On est les mieux payés, on est pratiquement les privilégiés. Comme quoi, vous savez, tout ce qui se dit sur ces plateaux télé, toute cette propagande gouvernementale et patronale, c'est vraiment un mensonge pour nous faire accepter l'inacceptable. Mais sur les attaques, une grosse attaque, c'est sur les travailleurs du service public. C'est 100 000 emplois qui vont être supprimés d'une manière ou d'une autre. Dans ces 100 000 emplois, je ne sais pas s'il faut le rajouter ou ou ça en fait partie, il y a quand même 4 000 enseignants. 4 000 enseignants, alors qu'on sait qu'il en manque 3 000 déjà pour que nos gamins puissent apprendre dans des conditions correctes. Non seulement ils ne vont pas les remplacer, enfin, ils ne vont pas le combler ce coût de 3 000, mais ils vont en supprimer 4 000. Le prétexte qu'il est vite trouvé, c'est que, soi-disant, il va y avoir 94 000 gamins en moins qui vont être scolarisés. Donc plutôt que de garder tout le personnel enseignant, et puis c'est pas que les enseignants, c'est derrière les infirmières, les surveillants, etc., plutôt que de garder tous ces travailleurs, et puis que les gamins, que les enseignants, ils n'aient pas 30, 32, 34 élèves en phase 2, mais qu'ils en aient un peu moins, et que les gamins, ils apprennent un peu plus, et dans des conditions plus correctement, c'est le contraire qu'ils font. Et c'est évidemment l'école publique. Parce que dans les écoles privées, même si elles sont subventionnées à 80% d'argent public, les écoles privées, il n'y aura pas moins d'enseignants. Parce que là-dessus, c'est les parents qui payent, et c'est évidemment les plus riches qui ont les moyens d'envoyer leurs gamins dans les écoles privées. Et puis, je vais pas faire toute la liste, mais il y en a quand même les médecins généralistes, quand on va aller faire la consultation, ça sera moins remboursé. Ils nous disent, mais c'est pas grave, de toute façon, les mutuelles, elles vont prendre le relais. Les mutuelles, c'est pas des mécènes. Les mutuelles, elles sont privées, elles vont pas nous faire de cadeaux, ça va forcément avoir un impact, et derrière, c'est l'augmentation des cotisations pour les mutuelles. C'est-à-dire qu'au bout du bout, c'est toujours nous qui payons. Et vous avez aussi cette petite musique qu'on connaît trop bien sur les fameux arrêts maladie. On est feignant, on travaille que 35 heures, même moins de 35 heures, et puis en plus, vu qu'on est feignant, on se met énormément en arrêt maladie. Voilà. Et donc, il faudrait trouver une solution pour qu'on ait moins de facilité de se mettre en arrêt maladie. Bref, c'est nous qui sommes les responsables, en gros, de cette dette, et c'est à nous de payer. À l'opposé, il n'y a personne qui met en avant, évidemment, parce que ça, c'est sacré pour le gouvernement, pour les capitalistes, c'est sacré. C'est les 150 milliards de bénéfices du CAC 40 qui ont été produits par le travail. Pour l'année 2023. Sur ces 150 milliards d'euros de bénéfices, c'est un record, il y a 70 milliards, près de la moitié, qui ont été directement dans les poches des actionnaires sous forme de dividendes. Et là-dessus, c'est vrai, ils sont les champions d'Europe du versement de dividendes chez les actionnaires. Là-dessus, ce chiffre, il n'est jamais avancé, il est jamais évoqué. Et puis, c'est aussi ce qui est sacré, les 200 milliards d'aides publiques qui sont déversées à fonds perdus, principalement dans les plus grandes entreprises du pays, c'est sous forme de dettes. Alors là, elles sont diverses et variées. Là-dessus, il n'y aura pas un centime de moins. Ça va continuer à se déverser 200 milliards. Et puis, il y a aussi, le gouvernement est parti en guerre contre la fraude sociale. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, la fraude sociale. Par contre, la fraude fiscale, l'évasion fiscale, là-dessus, il n'y a rien du tout. La fraude fiscale, l'évasion fiscale, c'est ces fameux milliardaires qui se débrouillent d'une manière ou d'une autre pour déclarer leurs impôts dans des paradis fiscaux. Je ne suis pas sûr que dans la salle, il y ait quelqu'un de cette catégorie-là, mais ça représente à peu près, selon les estimations, 60 à 80 milliards d'euros de fraude fiscale que l'État pourrait récupérer très facilement. Très, très facilement. Et là, toutes les attaques dont je vous ai évoqué, que je vous ai évoquées, c'est pour simplement 60 milliards, pour pouvoir rembourser 60 milliards de cette dette. En gros, c'est les intérêts de la dette. Et derrière, il y a tout, évidemment, tous les cadeaux fiscaux. Alors, il faut qu'on soit conscient que dans cette situation, on n'est pas responsable de cette dette. Les travailleurs, les chômeurs, les retraités ne sont pas responsables de cette dette. Quand on a entendu ce chiffre de 3100 milliards, de dette, on n'en a pas vu le moindre centime de ce dette. C'est pas nous qui avons bénéficié de ça. C'est les patrons, c'est les patrons du CAC 40, c'est les capitalistes, c'est cette grande bourgeoisie. Et donc, on n'a strictement rien à payer. On n'a pas un centime à devoir rembourser de cette dette. Au contraire, il faudrait que il y aurait une solution assez simple et logique, en tout cas, ça serait de réquisitionner les profits du CAC 40 pour rembourser cette dette, et ça serait d'arrêter de faire les cadeaux fiscaux à tous ces milliardaires, à tous ces millionnaires et ces capitalistes du CAC 40. Ça serait une solution pour rembourser cette dette, mais en tout cas, c'est pas aux travailleurs, c'est pas aux chômeurs, et c'est pas aux retraités de payer et de rembourser cette dette. Ça, c'est une première chose. Parce que pendant que la bourgeoisie continue de se goinfrer l'argent public et continue de faire en sorte, avec le gouvernement Barnier, Mais ça aurait été, juste, j'ouvre une petite parenthèse, ça aurait été un autre gouvernement, d'une autre couleur politique, comme le Nouveau Front Populaire, qu'on aurait eu exactement la même. Il serait arrivé au gouvernement avec cette dette qui pose un vrai problème dans l'économie, qui pose même un problème, qui commence à poser un problème à la grande bourgeoisie. Et je vous garantis qu'ils n'auraient pas eu ce courage politique, parce qu'ils n'ont pas la volonté politique de faire payer les riches, véritablement, de faire payer les capitalistes du CAC 40. Et d'une manière ou d'une autre, ça aurait été aussi des attaques pour nous et des sacrifices pour nous. Mais pendant que cette grande bourgeoisie, elle continue de se goinfrer d'argent public, nous, au niveau du monde du travail, on continue à subir les licenciements, les fermetures d'usines, le blocage des salaires et le rabotage de l'ensemble de nos droits collectifs. Alors, les licenciements, je sais qu'il y a eu un débat là sur Punch, mais il n'y a pas que Punch qui est menacé de fermeture avec un plan de licenciement en ce moment. Il y a dans la région, il y a Novares, il y a des dizaines d'entreprises, et pas que l'automobile, des dizaines d'entreprises aujourd'hui qui sont sous le coup de menaces de licenciement, de fermeture et de plans de suppression d'emplois. Parce que, ça va être un complément du débat qu'il y a eu tout à l'heure sur Punch, c'est qu'il faut qu'on se pose la question, pourquoi les patrons, ils ferment les usines de cette manière-là? Pourquoi ils licencient à tour de bras? Pourquoi aujourd'hui ça s'intensifie? Eh bien, ça s'intensifie, je ne vais pas choquer, le mot est trop fort, mais peut-être étonné, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Les capitalistes n'ont pas le choix que de fermer, n'ont pas d'autre choix que de fermer les usines, de licencier pour rendre plus rentable leur affaire, leur business. Pourquoi? Parce que on est dans le capitalisme, dans ce système économique qui est basé sur la concurrence, qui est basé sur le fait que c'est la guerre entre capitalistes. C'est la loi du marché qui prime. C'est la rentabilité qui prime. Et derrière, c'est faut faire des profits pour sauver son affaire. Et c'est le raisonnement d'un capitaliste X. Et tous les capitalistes ont exactement le même raisonnement. Ils se font la guerre entre eux. Je vais prendre l'exemple de l'automobile, où Carlo Tavares, le PDG de Stellantis, a eu cette phrase récemment, parce qu'il fait pas mal l'actualité, où il pense, peut-être qu'il a raison, sûrement, je ne sais pas, que de 10 constructeurs au niveau mondial, de 10 constructeurs d'automobiles, on va passer à 5 constructeurs automobiles. Parce que c'est la concurrence entre eux. Ils se font une guerre à mort. Ils ne se font pas de cadeaux. Ils peuvent des fois s'unir, quand leurs intérêts le demandent, mais ils se font une guerre à mort. Une guerre à mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à partir du moment où le marché automobile ne grandit plus, qu'il atteint son plafond de verre, il y a cette phrase aussi de Carlos Tavares, de dire « il faut aller manger dans la gamelle des autres ». Aller manger dans la gamelle des autres, ça veut dire quoi comme politique? Ça veut dire que Stellantis a comme politique d'aller prendre des parts de marché à Toyota, que Toyota a comme politique de lui prendre des parts de marché à Renault, Renault à Volkswagen, etc., etc. De faire crever l'autre. Et s'ils ne le font pas crever, ils s'unissent, ils se rachètent, ils se marient, et c'est l'histoire du capitalisme. Et ça, personne ne peut y échapper, et les capitalistes eux-mêmes ne peuvent pas échapper à cette loi de la concurrence, cette loi du marché, où il faut gagner sur son rival. Et c'est toute la concentration industrielle, commerciale, c'est l'histoire du capitalisme. Il y a 60 ans, presque 100 ans de ça, il y avait des dizaines et des dizaines de constructeurs automobiles. Aujourd'hui, on en est réduit à 10 constructeurs. Et demain, Carlos Tavares pense qu'on va être réduit à 5 constructeurs automobiles. Donc cette guerre économique, ils la font comment? Ils la font avec notre peau. C'est cette guerre sociale. C'est ces licenciements, c'est ces suppressions d'emplois. C'est le fait que, pour gagner leur guerre, il faut qu'ils nous fassent la guerre à nous, les travailleurs. Alors, quand ils n'arrivent plus à gagner cette guerre au niveau économique, ils passent aussi à la vitesse supérieure. Là, je vais en venir, je vais sortir un peu de la France et puis d'automobile. C'est la guerre tout court. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. C'est ce qui se passe aujourd'hui aussi au Moyen-Orient. L'Ukraine, c'est quoi? On nous a vendu depuis maintenant deux ans et demi, nous a vendu cette guerre qui est la guerre du mauvais Poutine contre le gentil Zelensky. Bon, c'est archi faux. Les guerres, c'est jamais ça. Les guerres, elles prennent leur source dans des intérêts économiques, dans une source économique. C'est qu'aujourd'hui, évidemment, Poutine est un dictateur. Évidemment, Zelensky, il n'est pas si gentil que ça, c'est un corrompu de première. Mais derrière, c'est une guerre entre, d'un côté, les oligarques, les milliardaires, les oligarques russes, et de l'autre côté, l'impérialisme américain, les capitalistes américains. Et que y a une lutte d'influence pour prendre le contrôle de toute cette zone d'Europe de l'Est, prendre le contrôle économique, pour continuer à faire leur business, pour continuer à faire des profits, etc. Et ça se fait sur le dos des populations. Ça se fait avec la peau, aujourd'hui, d'une génération de jeunes travailleurs russes et de jeunes travailleurs ukrainiens qui sont en train de pourrir dans les tranchées en Ukraine, avec plus grand profit des marchands de canons européens et puis surtout américains. Mais derrière, dans le camp, c'est ça que je voulais aussi dire, c'est que dans le camp occidental, dans le camp impérialiste, c'est la guerre entre eux. C'est que dans cette guerre que mène l'impérialisme américain contre Poutine, c'est que s'il peut, l'impérialisme américain, les capitalistes américains, s'ils peuvent marquer des points vis-à-vis des capitalistes allemands, des capitalistes français, en gros des capitalistes européens, eh bien, il y a bon pour eux. Ils le font. Parce que il n'y a pas de cadeau, il n'y a plus de cadeau à se faire. Parce que la crise économique, elle est quand même là. Et puis au Moyen-Orient, le malheur de ces populations, c'est qu'elles vivent sur du pétrole, elles vivent sur une région qui est extrêmement riche. Et aujourd'hui, quand on voit l'intervention, la politique du gouvernement israélien, ben voilà, c'est la barbarie. Le fait que suite aux attaques terroristes du 7 octobre du Hamas, il y a eu cette réponse, c'est même plus une réponse, c'est qu'aujourd'hui l'État israélien, il est en train de raser la bande de Gaza, il est en train de commencer à envahir le Liban, de s'attaquer au Liban, et on voit, c'est même pas semaine après semaine, c'est jour après jour, que l'embrasement de la guerre là-bas, dans cette région, elle est de plus en plus proche. Ou en tout cas, Israël fait tout pour embraser la région, en tout cas pour provoquer l'Iran. Là, ils sont en train d'attaquer la FINUL, les casques bleus, parce qu'ils voudraient bien que les casques bleus s'en aillent, que la FINUL s'en aille, pour derrière envahir, comme ils l'ont fait un certain nombre de fois, le sud du Liban pour aller jusqu'à Beyrouth, et puis transformer sans doute une partie du Liban, comme ils l'ont fait à Gaza. Bon, ben ça, c'est la barbarie qui est à nos portes en tout cas, parce que cette guerre là-bas, elle nous concerne, et c'est ça le capitalisme. Le capitalisme, c'est de crise en crise, de guerre en guerre, et c'est le chaos. Alors là-dedans, c'est quoi la solution ? Ben nous, parce qu'on est communistes révolutionnaires, on pense pas qu'il y ait de plan B. Il y a qu'un seul plan, c'est le plan A. C'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire qu'on est convaincu que dans le capitalisme, on ne peut pas trouver un moyen pour que le capitalisme y soit à visage humain, comme on dit. On ne peut pas trouver, faire en sorte que les capitalistes, leur guerre, elle soit un peu plus douce, ou elle soit moins forte, que Israël tape moins fort, que Poutine tape moins fort, que les Américains tapent moins fort. Il n'y a pas cette solution-là. On est dans un système qui, de toute façon, ne génère que des guerres et ne peut générer que des crises économiques. Alors le seul plan que nous, on défend, en tout cas, c'est de détruire le capitalisme. On ne pourra... la seule solution qui vaille le coup, les seules idées qui nous permettent... qui vaille le coup d'être défendues, c'est les idées communistes qui nous donnent cette force, cette explication qu'il faut, absolument détruire cette société qui est fondée sur l'exploitation, sur l'injustice, et sur l'oppression. Alors vous allez me dire, ok, c'est joli, c'est bien, c'est généreux, mais comment on peut s'attaquer, je viens de citer la fortune des 500 familles les plus riches de France, c'est ce fameux mur de l'argent, ils sont forts, ils ont le capital, ils ont les banques, ils ont l'armée, ils ont l'État à leur service, ils ont les flics, ils ont etc. À l'Utouvrière, vous nous dites, la seule solution, c'est tout renverser. Oui, on en est convaincu que c'est la seule solution. Et la seule classe sociale qui est capable de renverser ça, bah, c'est la classe ouvrière. Pourquoi c'est la classe ouvrière? Parce que devant ce mur de l'argent, devant cette force qui nous paraît indestructible, il y a un talon d'Achille, c'est les travailleurs. C'est qu'on est à la base du fonctionnement de toute la société. On est à la base de la création de toutes les richesses. Et que sans nous, il n'y a rien qui peut tourner. Il n'y a rien qui peut se faire. Alors oui, nous, on milite pour des explosions sociales, pour un embrasement social, pour le fait que le camp des travailleurs, le camp de la classe ouvrière, eh bien, ils prennent conscience de ses intérêts, ils prennent conscience de sa force collective. Et pour ça, on milite pour qu'il y ait dans ce pays, mais pas que dans ce pays, un parti politique qui soit réellement du côté des intérêts des travailleurs. Quand je dis ça, on peut me répondre, et c'est vrai, et des partis, il y en a un paquet, qui se réclament en gros des classes populaires, c'est la gauche, c'est le Parti communiste, c'est le Parti socialiste, c'est la France insoumise, c'est les Verts, etc. Ouais, on les a vus à l'œuvre là, ces derniers mois. On les a vus à l'œuvre. En fait, c'est la course aux places. Leur seule perspective qu'ils défendent, c'est d'avoir le pouvoir, d'arriver au gouvernement, d'avoir le plus possible de députés, d'arriver au gouvernement. Et qu'une fois au gouvernement, on les connaît. C'est qu'à chaque fois qu'ils ont été au gouvernement, ils ont servi la soupe aux capitalistes. Et à part ça, ils ne savent rien faire d'autre parce que c'est la seule chose qu'ils veulent faire. C'est la seule chose dont ils sont convaincus qu'il faut faire, c'est de faire en sorte que bah, ça soit le moins mal possible. En fait, c'est pas le moins mal possible, c'est à chaque fois, c'est pire pour nous. Que ça ait été Mitterrand, Jospin, Hollande, à chaque fois, ça a été pire pour les travailleurs. Parce que c'est pas eux qui commandent. Parce que c'est pas les politiciens qui commandent. Ceux qui commandent, c'est les conseils d'administration des grandes entreprises du CAC 40. C'est eux qui donnent la feuille de route, c'est eux qui donnent exactement les ordres, les revendications sur le bureau de Matignon, et quelle que soit la couleur du Premier ministre, de toute façon, ça sera la discipline, et il faudra exécuter ce que veulent ces grands patrons. Donc la seule force sociale qui peut changer les choses, c'est les travailleurs. Et il faut qu'on les... Dans le camp du monde du travail, un parti politique qui soit à l'opposé de ces partis de gauche. Pas un parti politicien dont l'objectif c'est de gagner des places, gagner des députés, pour après gagner des ministres. C'est un parti de travailleuses et des travailleurs, un parti de chômeurs, un parti militant, de retraités du monde du travail. Et qui a comme objectif, pas de donner des fausses solutions comme le fait le Rassemblement National, ou... La solution, bah, c'est de s'attaquer à l'étranger, c'est de s'attaquer aux migrants, c'est de s'attaquer à ceux qui n'auraient pas une vraie carte d'identité française. Ça, c'est les fausses solutions. Et ça peut mener, ce genre de fausses solutions, à ce qui s'est passé, je pense que vous l'avez toujours en tête, cet été en Grande-Bretagne, avec des émeutes racistes, où c'est carrément la chasse à l'étranger, la chasse aux migrants. Non, c'est un parti, justement, qui défend le contraire, qui défend l'unité des travailleurs, quel que soit... son origine, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa catégorie, quel que soit son sexe, quelle que soit sa religion, et on fait partie d'une même classe sociale parce qu'on a les mêmes intérêts. Pourquoi? Parce qu'on est tous exploités par les capitalistes et qu'on a un intérêt commun à défendre, c'est de renverser ce système. Notre devise, c'est pas liberté, égalité et fraternité, notre devise, c'est travailleurs de tous les pays, unissons-nous. Et c'est ça qu'un parti devrait défendre demain. La deuxième chose, c'est un parti qui ne défend pas comme perspective l'électoralisme. C'est-à-dire que c'est avec un bulletin de vote qu'on peut faire changer les choses pour nous les travailleurs. Quand tout ce que j'ai dit au début, et je ne parle pas simplement que de l'attaque de Barnier sur le budget en supprimant 4000 profs, etc., mais l'Ukraine, le Moyen-Orient, ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé cet été avec un mini-crack boursier dans les bourses du côté de l'Asie, où certains experts économiques expliquaient que c'était peut-être les subressauts d'un crack boursier plus important, plus profond à l'échelle mondiale. C'est pas une Lucie Castet qui va nous sauver, qui va nous protéger. C'est pas un Mélenchon qui va nous protéger. Ce qui nous protégera, ce sera nos luttes. Nos luttes, et ça veut dire, encore une fois, avoir un parti qui se donne comme perspective de transformer la société et que les travailleurs ne peuvent compter que sur eux-mêmes, sur leur lutte, sur leurs combats sociaux, et avoir cette conscience politique qu'on aura le salut pour l'humanité que quand on aura renversé le capitalisme, renverser cette bourgeoisie, détruire le capitalisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre leurs banques, prendre leurs usines, prendre leurs entreprises, et puis prendre le pouvoir politique pour réorganiser l'ensemble de l'économie, l'ensemble de la société, non pas pour enrichir une petite catégorie de capitalistes, mais pour satisfaire les besoins élémentaux de l'ensemble de l'humanité. Et à partir de là, oui, on pourra construire une vraie société digne de ce nom.
Alors, on vous propose de maintenant intervenir à votre tour. C'est votre tour maintenant. Donc, ça peut être des questions. Ça...